Bonjour à toutes et à tous. Je vous ai parlé la semaine dernière de Néandertal et de sa fin tragique. Aujourd'hui, on va reprendre le récit, mais avec Sapiens, c'est-à-dire l'homme, ce que l'on appelle l'homme moderne, c'est-à-dire nous-mêmes, parce que, comme vous le savez, il n'y a pas eu de mutation génétique au moment de la création de notre espèce, et que tous les récits qui avaient été faits au XIXe siècle pour imaginer une origine de l'homme qui aurait justifié les différentes races, et notamment la prééminence de la race blanche sur les autres, à travers justement les inventions. C'est-à-dire qu'on supposait qu'il y avait une évolution du cerveau qui était liée à des découvertes scientifiques et techniques. Bien sûr, on sait que tout ça a permis de justifier le colonialisme, c'est-à-dire qu'on a mené la civilisation à des peuples qui étaient restés primitifs. Et je vous ai parlé la semaine dernière justement de mon désaccord par rapport à la création de Néandertal, qui est, à mon sens, une aberration racialiste, qui rejoint justement ce récit des races inférieures. Donc, même si tout cela apparaît sous la bien-pensance d'aujourd'hui, en fait, il s'agit fondamentalement de la reprise du récit racialiste. Alors, les choses ne sont pas très simples, puisque, en fait, même si cela est accepté, et notamment depuis que l'on connaît la structure de l'ADN, donc il n'y a aucune ambiguïté et aucun débat sur cette unité génétique de notre espèce, mais il n'en demeure pas moins que le récit de la préhistoire n'a pas été, du moins, n'a pas été en grande partie modifié par justement ce récit des origines où on avait un chasseur-cueilleur avec une vie, on peut dire entre guillemets primitive, et évidemment qui se distinguait totalement des civilisations qui allaient venir les unes après les autres dans une sorte de palier évolutionniste. D'abord les premières huttes, puis on serait passé de la tente et de l'abri aux premières huttes, ensuite au village et les premières villes, et tout ça dans une période qui aurait été, on pense, assez récente. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire que pendant quasiment 30 000 ans, on aurait eu nos ancêtres qui auraient été des nomades, chasseurs-cueilleurs, sans habitat permanent. Bon, cela est quand même assez surprenant parce que on sait que tous les peuples sortis des exceptions que peuvent constituer les tropiques où on a un climat totalement favorable et aussi peut-être aussi une abondance de justement de fruits, de possibilités de cueillette et de gibier. On est dans les températures qui sont notamment celles de l'Europe ou d'autres régions, il y a des hivers et que on voit assez mal comment des modes qui conviennent à certains peuples de l'Afrique puissent s'appliquer dans des circonstances totalement différentes. Alors il faudrait d'ailleurs faire une petite parenthèse par rapport à cela, parce que les préhistoriens d'aujourd'hui pensent qu'en fait, les peuples, on peut dire justement chasseurs-cueilleurs, qui subsistent encore, notamment en Afrique, il y a les Pygmées au Congo, il y a aussi les Indiens d'Amazonie, dont on parle régulièrement dans l'actualité, certainement, enfin, il y en a aussi en Indonésie, donc il reste des peuples, effectivement, sur plusieurs continents, qui ont des modes de vie, on peut dire justement, de chasseurs-cueilleurs. Alors, la croyance des préhistoriens, comme je vous disais, c'est de penser que ces peuples sont archaïques et qui sont des peuples qui n'ont pas bougé depuis la préhistoire. Alors déjà, c'est un récit qui me semble totalement baroque et totalement faux. Prenons l'Amazonie par exemple. Contrairement à ce que l'on pense, l'Amazonie n'était pas cette grande forêt que nous avons aujourd'hui et qui est soi-disant le poumon du monde, puisque des fouilles qui ont été réalisées et puis des découvertes ont montré qu'il y avait des civilisations et que l'Amazonie était peuplée et n'était pas boisée comme elle l'est aujourd'hui, et que c'est la nature qui a pris le pas sur des civilisations qui étaient des civilisations bâties. On retrouve aujourd'hui des monuments qui sont, si ce n'est enfouis, en tout cas visibles. Donc, les Indiens d'Amazonie ont de fortes chances d'être des descendants de civilisations disparues, et on sait que, enfin, du moins, c'est ce que je dis, c'est qu'on est dans des cycles de civilisations et on n'est pas du tout dans le palier de l'évolution de Darwin, qui est, elle, une évolution génétique, mais évidemment, qui n'a rien à voir avec l'organisation des civilisations. Donc, les scientifiques qui aiment bien justement ces progressions d'évolution avec des paliers et des tiroirs, il est évident que cette approche est tout à fait différente de l'approche des scientifiques. Et comme vous le savez, les préhistoriens sont en majeure partie des scientifiques. Donc, revenons aux chasseurs-cueilleurs. Comme vous le savez, la découverte des peintures pariétales est arrivée, en tout cas bien après ce récit de la préhistoire et au début du XXe siècle. Ça a été la découverte de la grotte d'Altamira qui a effectivement choqué les préhistoriens de l'époque. Et il a fallu des années pour que on puisse admettre que ces dessins, qui sont faits avec une grande virtuosité, avaient pu être faits par les hommes préhistoriques primitifs. Donc, il a fallu être devant l'évidence parce qu'on a continué à découvrir Pechmerle, puis on a découvert Lascaux, et puis vous savez, les dernières découvertes les plus étonnantes qui montrent toujours avec une stylistique assez semblable une profusion de créations artistiques d'une très grande qualité à la fois picturale et à la fois technique. Donc, nous sommes sur un récit qui n'a pas bougé, et aujourd'hui donc, dans le récit de la préhistoire, des chasseurs-cueilleurs artistes, donc qui chassaient et qui cueillaient, qui ramassaient les fruits et ce que la nature peut donner, et puis ils étaient des peintres extraordinaires. Donc déjà, cette explication est un peu curieuse parce que ça suppose effectivement qu'il n'y ait aucune spécialisation et ça suppose que les gens de cette période étaient d'extraordinaires génies. C'était des amateurs qui arrivaient à peindre comme Toulouse-Lautrec. Et en fait, c'est d'ailleurs la réflexion que l'on peut faire, c'est que par un étrange hasard de l'histoire, la technique de ce passage, on peut dire, de l'impressionnisme à la peinture moderne, par des artistes comme Toulouse-Lautrec, se trouve justement à peu près en phase avec le moment de la découverte d'Altamira, à quelques années près. Donc c'est extrêmement troublant et intéressant, évidemment, c'est un hasard complet, mais on se trouve avec une technique picturale et je reviendrai sur ce point là-dessus, et qui nous fait un très grand étonnement par rapport à ce que nous pouvons connaître de l'histoire de l'art. Alors il est évident que ce qui est très curieux, c'est d'avoir justement des représentations. Alors là, il s'agit effectivement, c'est pas les sujets de Toulouse-Lautrec, mais enfin, on est sur un tracé, sur une manière, une dynamique du mouvement qui est très semblable de la peinture de cette époque. Alors, évidemment, tout cela me paraît assez surprenant parce que je ne vois pas comment des peuples nomades ou des peuples qui n'ont pas justement le désir d'avoir des arts aussi complexes qui sont justement ces peuples nomades aient pu réaliser cela. Donc ça ne correspond pas à ce que l'on sait de ces peuples, ou alors effectivement on a des petits dessins que l'on peut retrouver sur les peintures pariétales, mais encore une fois, ce n'est pas le support qui fait l'histoire de l'art. L'histoire de l'art, elle n'est pas divisée entre la peinture sur toile, la peinture sur panneaux de bois, comme la Joconde qui est peinte sur des panneaux de bois ou Vermeer. Elle est faite sur un plan stylistique, et il y a un lien entre la société et le style, parce que l'art est toujours une production qui est liée à la forme des sociétés. Et effectivement, quand j'entends, quand je parle de peinture, il est évident qu'il s'agit aussi de cette relation qui existe entre l'architecture, entre les arts plastiques, sculpture et peinture, et puis aussi tout ce qui ne peut pas être témoigné aujourd'hui, mais que l'on suppose existant, c'était les autres formes artistiques qui vont être la musique, la danse et évidemment le récit, puisque on n'a aucun enregistrement de ce que racontaient les hommes de ces temps éloignés. On va marquer une pause musicale et puis je vous proposerai une explication qui est différente de celle que vous avez entendue jusqu'ici. Prenant sur les grottes ornées, Comme vous le savez, ça représente essentiellement des animaux en mouvement et on peut dire dans un grand désordre. Et ce n'est pas du tout une peinture avec une structuration, mais en tout cas, ce qui est la caractéristique, c'est surtout sa grande dimension, et on n'est pas du tout dans les dessins, les objets que font justement les peuples nomades, qui sont à l'échelle de ce que l'on transporte. Alors il est évident que les grottes, on ne peut pas les transporter, mais on est à se poser la question de justement... Pourquoi se donner autant de mal dans des grottes difficiles d'accès et où il fallait de l'éclairage artificiel, il fallait amener à la fois certes, des échafaudages parce que on a des plafonds peints, il fallait également amener tout un attirail de liants, de pinceaux, en fait d'un matériel qui est un matériel professionnel, entre guillemets, et que les peintres d'aujourd'hui ont avec très peu de variantes. Le noir, c'est le carbone, le jaune est lié à l'argile, le rouge aussi. En fait, les couleurs employées, jusqu'à l'invention récente de la peinture acrylique, mais étaient à peu près les mêmes que celles que l'on va trouver, les techniques également. Alors, les préhistoriens donnent des explications diverses. On a effectivement donc des lieux qui seraient des sanctuaires. Mais comment, pourquoi y aurait-il des sanctuaires dans des lieux aussi difficile d'accès et où on peut avoir assez peu de personnes. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de correspondance entre le nombre de personnes qui peut rentrer et puis, on peut dire, le travail fantastique qui a été fait pour se donner la possibilité d'élaborer. On a par exemple des parois qui sont travaillées pour donner une surface plus lisse. Enfin, bon, il y a un travail, on peut dire, entre guillemets, professionnel. Donc je ne crois pas d'abord que ça puisse être fait par des amateurs. Les gens n'imaginent pas ce qu'est l'apprentissage aujourd'hui, hier et de tous les temps. L'apprentissage des métiers artistiques, c'est un travail qui demande des années. On n'est pas dans une transmission de savoir scientifique où on donne le résultat. On est là, on recommence l'histoire du monde pour soi-même et c'est un long apprentissage. Et pour bien maîtriser, bah, il faut des années, des décennies et peut-être même une vie. Il est totalement invraisemblable qu'il puisse s'agir simplement des activités que l'on peut trouver, par exemple, dans certains peuples qui vont sculpter de l'ivoire le soir, où on peut dire il y a des petits objets qui sont effectivement de type amateur, comme les cannes que l'on trouve dans nos campagnes, où il y a aussi des sculptures d'un art naïf, on pourrait dire, et là on n'est pas du tout dans cela. Donc, cela ne correspond pas. Alors, on a donné aussi des explications de chamans où on aurait des rites du type des vaudous ou des hommes sorciers en transe se mettraient à peindre ou peindraient après la transe des visions d'animaux avec des fantaisies. Alors, tout ça me semble évidemment totalement faux, parce que là aussi c'est une méconnaissance du travail artistique qui demande une concentration et pas du tout d'être sous acide en tout cas dans une transe. Donc là, ce qui ressemble le plus à ces dessins, eh bien, c'est les dessins que l'on fait que les artistes font, les professionnels, sur des carnets, qu'ils font aussi sur des supports un peu plus grands, c'est-à-dire c'est des supports pour s'entraîner et pour avoir la maîtrise, la maîtrise du trait et la maîtrise des techniques. Alors là, on est dans quelque chose qui est totalement différent. C'est-à-dire qu'en fait, je suis dans la supposition de ce que je viens de vous dire à l'instant, de peintres et d'artistes professionnels qui vont s'entraîner, qui vont s'entraîner et on peut supposer qu'ils vont se former. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas, par exemple, étranger à l'Afrique. Dans des peuples africains, on a la maison des masques où les initiés, les sculpteurs, souvent ça se passe avec des, si ce n'est pas des fratries, mais en tout cas des héritages. On est peintre comme Bach était musicien de père en fils. Il y a des familles. Et ça, ça a existé jusqu'à une époque très récente. Donc, on a des formations qui sont données avec des secrets de formation et ça supposerait que la caverne est ce lieu justement qui est retiré de notre endroit, d'être un lieu retiré d'apprentissage. Et quand on voit les dessins, eh bien, c'est les dessins d'apprentissage. Par exemple, on a des troupeaux, mais qui sont des faux troupeaux, où on a des mélanges d'animaux et d'animaux qui ne sont pas des animaux chassés, justement. On a par exemple un cosquer et on a des rhinocéros, des lions, des animaux qui ne sont pas comestibles, qui ne sont pas chassés. Et d'ailleurs, c'est ce qui me ferait dire qu'en fait, justement, on n'est pas du tout dans l'utile, mais on est dans, on peut dire, dans l'inutile. Et les sujets que l'on prend dans les exercices de formation sont justement des sujets qui sont éloignés de la réalité. Alors, ma supposition, elle est celle-là. Il s'agit d'ateliers de formation et des formations qui peuvent d'ailleurs être aussi des pinacothèques et des musées. C'est-à-dire qu'on a les œuvres anciennes qui peuvent servir d'inspiration et de modèle. Et on a ça aussi, nous. Et les musées, si vous allez au Louvre, vous verrez des gens qui reprennent, qui dessinent et qui peignent les tableaux anciens, manière d'apprendre. Donc, on sait que ça s'est étalé sur des millénaires et on peut penser donc que ces grottes étaient faites pour conserver les œuvres faites par des maîtres anciens et d'ailleurs, elles ont rempli parfaitement cette contrainte puisqu'elles sont arrivées jusqu'à nous. Donc, ça, c'était, si vous voulez, donc cette hypothèse. Alors, il est évident que on peut se poser la question, mais on faisait ça pourquoi ? Et alors, mon explication de l'atelier qui est séparé du lieu où on habitait et l'utilité justement de former des peintres, c'est qu'il y avait, et ça, c'est en contradiction avec le récit généralement admis de la préhistoire, il ne s'agissait pas effectivement de tentes en peau de bête avec des défenses de mammouth ou des bâtons qui étaient croisés. Non, il s'agissait de choses beaucoup plus pérennes, beaucoup plus solide, et je ne dis pas que cela n'ait pas existé, parce qu'on peut trouver effectivement certaines traces, mais il s'agissait aussi on chassait, et c'est vrai, mais il y avait des villages, et mon hypothèse, ma thèse, c'est qu'il y avait des villages, et ces villages, comme on a pu trouver à l'Anatolie, à une période beaucoup plus récente, avec des parois peintes, des parois qui étaient en terre. On a construit en terre jusqu'à une époque récente, et on continue d'ailleurs, aujourd'hui. Et on décorait, et ça, c'est un processus que l'on peut retrouver dans toutes les régions et dans toute l'histoire. On peignait sur les murs en terre. Bon, dans les climats difficiles et pluvieux, évidemment, c'était peint sur l'extérieur. En Afrique, ça peut être peint sur les extérieurs, mais on peignait dans des intérieurs. Et pas forcément d'ailleurs les scènes que l'on peut trouver sur les parois des cavernes, qui pouvaient être aussi un exercice détaché des scènes que l'on peignait. Et là aussi, par exemple, on sait que dans la religion, la scène, par exemple le Christ ou les représentations des saints, eh bien, l'apprentissage, il est toujours fait sur quelque chose de neutre. On ne peint pas le roi, on ne peint pas, on ne s'amuse pas à faire des graffitis. Donc, il y a un côté sacré et il est bien possible que l'entraînement sur des animaux sauvages non chassés était un exercice justement d'observation et on peut dire, de bataille, peut-être aussi, comme on voit par exemple les cadavres exquis que l'on peut voir dans les festivals de bandes dessinées, où on a des grands professionnels de la bande dessinée qui dessinent, et puis un autre reprend, et on a à la fin justement quelque chose qui est assez curieux parce qu'il n'a pas été composé. On peut supposer d'ailleurs, quand on voit les reproductions ou les peintures pariétales, qu'il s'agissait de ce type de procédé. Il n'est pas interdit non plus de penser qu'il y avait des élèves qui avaient des supports, comme on a des carnets de dessin ou des cartons sur lesquels on dessine, ben, ils avaient des panneaux qui étaient peut-être faits en peau de bête ou aussi en écorce. Voilà, ce sont des supports autres. Donc, on est dans une approche complètement différente. On aurait donc des civilisations, c'est mon explication, de trouver une cohérence de ce mystère des grottes ornées. On a donc des lieux de création d'objets, donc peut-être certains sont sur des médias périssables, du cuir, du bois, il ne nous en reste rien, mais on a des ateliers de fabrication, on a des ateliers de formation et on a aussi des musées. Et donc les cavernes servent à ça et aussi certainement on s'échange et on peut les faire visiter puisqu'en fait on retrouve quand même sur des aires importantes des formes semblables et on peut être à peu près sûr que justement il y a une mobilité comme on peut retrouver en Afrique, à la fois des choses différentes, mais une grande unité aussi dans les sculptures africaines, dans le mode d'expression, et qui est dû effectivement au fait que les artistes sont des visiteurs d'autres peuples et peuvent échanger avec leurs collègues. Voilà, ce sont en fait des cohérences que l'on peut retrouver dans d'autres civilisations, et je ne vois pas pourquoi la préhistoire échapperait à ces grandes constantes de l'humanité que l'on trouve sur tous les territoires. Donc, mon hypothèse, encore une fois, c'est que contrairement à ce que l'on raconte et à ce que la préhistoire décrit et que les films montrent et les récits et les bandes dessinées, il s'agit donc de villages qui peuvent être assez importants aussi, mais des villages qui sont certainement organisés, pas uniquement des huttes rondes, mais il y a certainement une maison commune, il peut y avoir des lieux affectés et lisibles, et c'est pour cela qu'il y aurait tout ce cérémonial des arts picturaux qui serait évidemment à la dimension de ce que l'on peut voir, puisque c'est ça la force de l'exercice et la difficulté de l'exercice de l'artiste, d'arriver à peindre des grandes œuvres avec une grande dextérité. C'est tout à fait différent de peindre sur des petits formats, et c'est extrêmement difficile d'arriver à peindre, on peut dire, de la fresque, parce qu'il s'agirait justement de peinture de fresque. On sait que la peinture de fresque, avec les exemples que l'on connaît magnifiques comme la chapelle Sixtine de Michel-Ange, la fresque traverse toutes les civilisations et toutes les époques. C'est-à-dire, c'est l'ornementation du mur, et le mur, c'est l'architecture. Donc, voilà, si vous voulez, réfléchissez à mon explication, mais je pense qu'elle me paraît assez cohérente, et elle va évidemment donner par la suite un autre récit que nous continuerons de l'histoire de l'architecture et des villes et des civilisations. À la semaine prochaine, merci.